Maurice et Katia Kraft, les Diables des Volcans, entretien avec André de Maison.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, comme on dit, j'ai eu une période volcan. La fascination pour ces montagnes de feu ne m'a jamais quittée, sans doute parce qu'un volcan, c'est l'histoire de notre planète en train de s'écrire là, sous nos yeux. Il y a 2 ans, à la médiathèque de Chartres, l'apostrophe, j'ai emprunté un livre intitulé « Les diables des volcans » d'un certain André de Maison. Ce livre est consacré au couple Maurice et Katia Kraft.
Ce qui est fabuleux en Indonésie, c'est que les Indonésiens ont compris ce que nous, en Europe, on n'a pas encore compris. Pour nous, Européens, les volcans, c'est le mal, c'est destructeur, c'est l'enfer. Pour les Indonésiens, c'est le bien. Les Balinais, par exemple, considèrent que les dieux du bien vivent dans les cratères actifs et que les dieux du mal vivent dans la mer. Ils ont parfaitement raison, parce que la fertilité des sols vient des volcans. Donc forcément, ce sont les grands bienfaiteurs. Eh bien, moi, je suis comme un Indonésien. Pas pour la même raison. Je considère que, eh bien, le paradis, finalement, c'est le volcan. Évidemment, c'est un paradis un peu sulfureux, un peu suffocant. Enfin, disons, il est enivrant, donc c'est un paradis.
L'homme qui vient de déclarer sa flamme aux volcans et à leur fantastique colère, c'est Maurice Kraft. Avec son épouse, Katia, ils ont arpenté leurs flancs et sondé leurs entrailles comme personne avant eux. Et ils ont révélé une partie de leur mystère au cours de leur carrière de volcanologue qui a duré plus de 20 ans entre les années 1970 et 1990. Maurice et Katia Kraft, un couple originaire d'Alsace, uni et complémentaire, partageant une passion dévorante pour ces terribles merveilles de la nature. Scientifiques, lui géologue et elle géochimiste, ils étaient aussi et surtout des aventuriers dont l'audace a fourni au monde des films et des photographies au plus près de ces phénomènes alors mal connus. Maurice et Katia Kraft, des noms oubliés d'une partie du grand public, eux qui ont pourtant été des pionniers de la volcanologie française et internationale jusqu'à leur disparition prématurée sur les pentes du mont Unzen au Japon en 1991. Parmi leurs amis les plus fidèles, André de Maison les a accompagnés dans leur mission aux quatre coins du monde. Il n'a de cesse d'entretenir la mémoire de leur vie et de leur travail à travers des expositions ou des ouvrages comme « Les Diables des Volcans ». Le livre m'a tellement passionnée que j'ai contacté André dans l'espoir d'une interview. Il me l'a accordé avec beaucoup de gentillesse, mais aussi beaucoup de responsabilité, celle propre aux gardiens du temple. Voici l'intégralité de cet entretien, ponctué d'extraits du reportage « Les volcanologues » tiré de l'émission « Vivre en France » produite par l'ORTF en 1971, également d'extraits du documentaire « Maurice Kraft sur les volcans du monde » réalisé par Denis Chégaré, Olivier Doha et Maurice Kraft, produit en 1989, et enfin d'extraits du documentaire « Into the Inferno » de Werner Herzog, disponible sur la plateforme Netflix et produit en 2016. Partons avec André de Maison à la suite de Maurice et Katia Kraft. André de Maison, bonjour. Un grand merci à vous de répondre à mes questions aujourd'hui. Ensemble, nous allons évoquer la mémoire de Katia et Maurice Kraft, leur héritage aussi, et les moments que vous avez eu le privilège de passer avec eux. Katia et Maurice Kraft ont disparu il y a presque 30 ans désormais, et depuis toutes ces années, vous êtes un ambassadeur passionné, partageant, comme vous le faites d'ailleurs avec nous aujourd'hui, le témoignage de cette rencontre. C'est dire si elle a bouleversé votre vie. Alors, quand avez-vous rencontré le couple Kraft et dans quelles circonstances ?
Eh bien, tout d'abord, merci à vous de m'accueillir dans votre émission. Eh bien, écoutez, j'ai rencontré Maurice et Katia Kraft début des années 1970, donc ce qui remonte déjà à pas mal d'années, ce qui donne une idée de mon âge. Et voilà, et je m'intéressais au volcanisme, à la géologie, à la paléontologie. J'avais découvert le volcanisme personnellement en 1969 sur les pentes de l'Etna. Ça avait été une révélation et j'avais été fasciné par cette démesure de ce phénomène. Et puis, comme je ne voulais pas en rester là, j'ai contacté Maurice et Katia Kraft qui commençaient à peine à être connus. Donc, j'envoie une lettre, j'ai fait des études d'art et je proposais mes services comme illustrateur scientifique pour réaliser des films d'animation. Et puis, je leur ai envoyé une lettre pour me présenter. Et puis, au bout d'un mois et demi, il n'y avait toujours pas de lettre. Donc, moi, quand j'écris, j'aime bien qu'on me réponde. Et donc, je renvoie une deuxième lettre. J'avais 18 ans. Hein. Mm-hmm. Je renvoie une deuxième lettre en leur disant, j'aimerais bien qu'on me réponde. Et là, au bout de 10 jours, je reçois un télégramme de Maurice qui me disait, désolé, sommes intéressés, rentrons de mission d'Indonésie, dans quelques jours, on se rappelle. Là, on s'est rappelé. On a beaucoup discuté par téléphone, on s'est rencontrés. Et puis là, il m'a dit, j'ai un projet de film sur une séquence d'éruption sur le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. Et j'ai besoin d'un film d'animation. Est-ce que tu serais d'accord ? Alors, je lui ai dit, bien sûr, j'étais d'accord. Donc, j'ai travaillé pendant 3 mois tout à fait bénévolement et j'ai réalisé un film sur une éruption particulière du piton de la Fournaise.
Quand vous faites leur connaissance, Katia et Maurice Kraft sont déjà scientifiques. Ils forment déjà un couple unique et qui est fasciné par les volcans. Dans votre livre, vous évoquez l'enfance et le parcours de Katia et de Maurice. Et c'est frappant de constater à quel point cette fascination, elle est née très tôt dans leur vie. Ils étaient encore finalement des enfants lorsqu'ils ont rencontré les volcans.
Ah oui, alors pour Maurice, Maurice était plus vieux que Katia de 4 ans. Et donc, Maurice a découvert les volcans à l'âge de 7 ans sur les pentes du Stromboli en Italie. Et donc, il a découvert au cours de vacances familiales où les parents ont emmené leurs deux enfants, parce que Maurice avait un frère aussi, Bertrand, plus âgé que lui. Ils sont allés jusqu'au sommet du Stromboli. Et pour Maurice, ça a été une révélation, c'est-à-dire ce contact avec ces montagnes turbulentes, ces montagnes fumantes, ces montagnes qui éruptent du magma. Voilà, c'était une révélation pour lui. Et très jeune, il a dit qu'il voulait travailler dans la géologie et dans le volcanisme. Pour Katia, ça a été plus tard, c'est-à-dire qu'elle est partie, elle aussi, vers l'âge de 14 ans, sur les volcans d'Italie, comme quoi l'Italie mène à toutes les passions. Et elle a d'abord abordé le Vésuve, ça l'a un peu déçue. Le Vésuve, c'est un grand trou qui ne fume pas beaucoup, donc elle a été un peu déçue. Mais en allant sur l'Etna, là, elle a vu de ses propres yeux une coulée de lave, elle a pu sentir l'odeur des gaz, elle a pu voir cette manière qui bouge, et puis elle a lancé un caillou sur la coulée de lave qui était en train de s'émettre, et elle a été étonnée de voir que quand on lançait le caillou, que ça arrivait sur la lave qui était en train de s'épancher, ça résonnait comme du verre brisé. Donc, ces deux passions qui naissent sur les volcans, sur la fascination des éruptions volcaniques.
Et ensuite, ils ont eu chacun des parcours universitaires brillants, chacun dans leur domaine. De quel domaine parle-t-on d'ailleurs ? Et est-ce que la volcanologie, comme on la connaît aujourd'hui, existait en tant que discipline à part entière lorsque Katia et Maurice étaient étudiants ?
Alors, il faut vous dire, la fin des années 60, le début des années 70, la volcanologie n'est pas considérée comme sérieuse dans le domaine scientifique. Il y a eu des grands découvreurs, il y a eu Alfred Lacroix qui a étudié l'éruption de la montagne Pelée en 1902, qui a fait 22 000 victimes, qui a posé les bases de la volcanologie française, il y en a eu d'autres. Mais si vous voulez, le volcanisme était considéré un petit peu comme un épiphénomène, un truc très spectaculaire, mais qui n'intéressait pas énormément, et le milieu scientifique ne s'y intéressait pas. Or, en 1976, il y a une grande expédition au fond de l'aride médio-atlantique, c'est-à-dire cette chaîne de montagnes qui sépare l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique de l'Amérique du Sud, et on a découvert que tout le plancher océanique était d'origine volcanique. Et là, il y a une grande... On a remis d'actualité la dérive des continents d'Alfred Wegener, où les continents se séparaient, voilà, et ça bougeait énormément, et d'un seul coup, le monde scientifique s'est réintéressé en se disant que le volcanisme était quand même quelque chose d'important, et qu'il fallait s'y intéresser beaucoup plus. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de recherches dans le domaine du volcanisme. Bien que à la surface de la planète, il y ait déjà eu des observatoires volcanologiques aux États-Unis, à Hawaï, au Japon, en Indonésie. Mais ce n'était pas encore un domaine prédominant. Et dans ce milieu-là, Katia a voulu travailler sur le volcanisme, elle a fait des études de géochimie, elle s'est spécialisée dans l'étude des gaz, qui sont des grands composants de l'éruption volcanique, et Maurice s'est spécialisé en tant que géologue. Et ils se sont rencontrés tous les deux par l'intermédiaire d'un ami commun, à Strasbourg, dans un café, le Café de la Victoire. Et puis, ils se sont retrouvés autour d'une bière et d'une assiette de knacki. Et puis, ils se sont retrouvés en discutant, en étant le miroir l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils avaient deux passions communes, et ils ont allié leurs deux passions communes pour ne plus faire qu'une seule passion, qu'ils vivaient ensemble. À partir de ce moment-là, ils ont créé une équipe qui s'appelait l'équipe Vulcain.
Ça ne court pas les rues, plutôt les volcans, les femmes vulcanologues.
Non, mais il y en a eu d'autres avant moi quand même. Les femmes de volcanologues célèbres. Donc, à en déduire. Enfin, je fais de la chimie sur les volcans. Et ça, je crois qu'il n'y en a pas d'autres.
Il faudrait ajouter une chose, c'est que finalement, elle a aussi trouvé des porteurs. Parce que justement, elle a du matériel lourd. Et elle l'a dit une fois, elle a dit oui, je vais sur les volcans avec mes porteurs. Et nous sommes ces porteurs, alors.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur Katia Kraft et son parcours. En préparant cette émission, vous m'avez rappelé à juste titre l'impact que la figure de Katia avait eu sur la société de l'époque. C'est vrai qu'une femme scientifique qui choisit une spécialité, on va dire traditionnellement quand même plutôt masculine, qui nécessite une grande force, que ce soit morale ou physique, forcément ça marque les esprits dans les années 70.
Ça marque les esprits, d'autant plus que Katia, c'est quelqu'un qui a un tempérament, du charisme. Et puis, elle se dit, je veux être volcanologue. Et donc, par l'intermédiaire de ses études de géochimie, elle espère aller survivre les éruptions volcaniques. Et en 1969, elle concourt à une fondation qui s'appelle la Fondation de la Vocation, qui était une fondation organisée par Marcel Blanchet, le directeur de Publicis, et qui récompensait tous les jeunes qui avaient une vocation dans n'importe quel domaine. On présentait des dossiers, 1000 ou 3000 dossiers qui arrivaient à la fondation de la vocation, et Katia a été retenue. Elle a concouru et elle a remporté le grand prix de la fondation de la vocation en 1969 comme étant la première femme volcanologue au monde. C'est-à-dire qu'elle avait suffisamment de force, de pugnacité pour travailler et être accepté dans un monde essentiellement d'hommes. Et dans ce début des années 1970, par la suite, où c'était ce grand mouvement de libération de la femme, on peut voir dans les journaux de l'époque, Katia, auprès de Simone Veil, auprès de différentes femmes qui portaient ce mouvement de libération de la femme, et elle témoignait de son métier de femme dans ce monde d'hommes. On l'appelait assez souvent, les journalistes l'appelaient la petite fiancée des volcans, c'est-à-dire cette jeune femme frêle qui travaillait sur les volcans. Et ça a été un grand modèle pour les femmes, quoique Katia n'avait pas envie d'être un modèle.
Oui, c'est ça que j'allais vous demander. C'était pas forcément dans son caractère, en tout cas, de revendiquer ce statut de modèle.
Non, c'était absolument pas dans son... Mais c'était sa façon d'être. Et elle, elle était comme ça. Et si vous voulez, quand on voit dans tous les journaux de l'époque, on voit que Katia peut être un modèle pour que les femmes puissent se lancer dans tous les domaines, professionnels ou autres. Voilà, c'était un modèle.
Quand on se promène sur des coulées de lave comme ça, on croit qu'elles sont froides en profondeur. Et on ne surpasse pas du tout. Je vais vous prouver qu'elles sont chaudes. On prend des feuilles, on les jette dedans, et ça va prendre feu très vite. À environ 50 cm de profondeur, là, il y a 1000 degrés. Et on s'en rend compte quand on marche sur le terrain, parce que les semelles, elles se mettent à fondre. Et là, je viens de perdre une paire de chaussures. Je l'ai utilisée 3 heures sur le terrain, perdu. Faut que j'en change. Une éruption volcanique, ça dépasse l'entendement humain, c'est beau à tomber à genoux, c'est très sensuel, c'est émouvant, parfois c'est même érotique. Je peux pas me passer d'éruption volcanique. Et à Hawaï, il y en a de fantastiques, une espèce de boulimie d'éruption. Et en même temps, j'ai l'impression d'assister à la naissance de la Terre. J'ai l'impression d'être là quand elle s'est formée il y a 4,7 milliards d'années. Donc c'est absolument fascinant. En fait, un volcanologue, c'est une espèce de sage-femme qui assiste la Terre dans ses enfantements. Et ces enfantements sont monstrueux, donc ils sont très beaux. Et finalement, Hawaï, eh bien, c'est la création du monde en direct.
Alors Katia était discrète, vous l'expliquez dans votre livre, avec cette force incroyable, une volonté à toute épreuve. Vous expliquez aussi qu'elle avait un caractère toujours égal, toujours optimiste. Le contraire finalement de son époux, le volcanique Maurice, qui avait lui aussi une personnalité hors norme, c'était un vrai personnage. Vous le décrivez comme quelqu'un de brillant, de provocateur, d'épicurien, avec une sacrée dose de mauvaise foi, mais vous en parlez avec beaucoup d'humour et aussi beaucoup de tendresse. C'était tous les deux vraiment des, si j'ose dire, des forces de la nature.
Ah oui, c'était des forces de la nature et qui avaient décidé d'une chose, de consacrer leur vie entièrement au volcanisme. Pourquoi ? Parce que quand on vit une éruption volcanique, je dis bien vivre une éruption volcanique, eh bien, on prend de l'énergie à cette nature qui s'exprime. Et on se sent bien. Et Katia ne se sentait bien que sur une éruption volcanique. Elle avait horreur des interviews, elle faisait des interviews, elle pouvait écrire des articles, ça ne la dérangeait pas, mais faire des émissions de télévision, ça l'embêtait un peu. Elle préférait laisser ça à Maurice, qui avait pris tout le côté médiatique. Et ils devinrent médiatiques du fait de, comme ils étaient indépendants, ils voulaient être libres, libres de se déplacer, libres de penser ce qu'ils voulaient penser, libres d'aller sur les éruptions comme ils le souhaitaient. Et la seule façon qu'ils ont trouvée, c'est d'être indépendants.
Justement, je voudrais peut-être revenir sur le début de leur carrière, parce que comme n'importe quel jeune chercheur, Maurice et Katia ont dû trouver des financements. Ils avaient une situation plutôt précaire et ils ont fait preuve, l'un et l'autre, d'une détermination, encore une fois, sans faille. Ils n'ont pas déplacé des volcans, mais des montagnes, très certainement. C'est assez impressionnant de voir l'énergie, justement, qu'ils pouvaient déployer pour pouvoir partir en mission.
Alors, si vous voulez, à l'époque, le volcanisme, c'était Rountaziev. Rountaziev, comment dire, avait des équipes, il formait des équipes qu'il a étudiées sur l'Etna, en Afar, sur le volcan Erta Ali et tout. Bon. Et Maurice et Katia ont au départ voulu travailler en équipe avec Taziev. Puis ça ne s'est pas fait. Et puis, ils ont voulu créer leur propre équipe et ensuite ils ont décidé de voyager et de parcourir les volcans tout seuls ou en équipe excessivement resserrée. Or, pour vivre leur passion, parce que ça coûte cher d'aller sur les volcans, ça passer 3 mois, 4 mois, 5 mois en pays étranger. Donc la seule solution qu'ils avaient, c'était de réaliser des conférences. Et à ce moment-là, ils ont réalisé des conférences. Pour faire ces conférences, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent ? Ils se sont lancés, et Katia, dans le domaine de la photographie. Elle aimait bien ça, mais sans plus. Et Maurice s'est lancé dans le domaine du cinéma. Ils ont fait des films et des images. À partir de ces films et ces images, ils ont réalisé des livres. En 25 ans de carrière, ils ont fait 21 livres, dont certains ont été traduits en plus de 21 langues. Ils ont fait 5 grands films d'1h30 pour pour Connaissance du Monde. Il faut bien vous dire qu'ils ont fait des milliers de conférences et que environ 3 millions de spectateurs ont assisté à leurs conférences. Enfin, c'est tout à fait exceptionnel. Et par les revenus générés par les conférences, par la vente de leurs livres, par la vente d'images pour des productions audiovisuelles un peu partout sur la planète, ils avaient de l'argent pour assouvir leur besoin d'aller sur les éruptions. Parfaitement indépendants financièrement.
Vous allez l'emmener comme ça par voie de terre jusqu'en Indonésie ?
Non, pas du tout. Il ira par bateau à partir de Marseille. Ça mettra un mois pour qu'il arrive en Indonésie. Il y aura en plus une remorque et un autre véhicule. Et nous irons un mois plus tard en Indonésie par avion, les quatre.
Combien de tonnes de chargement ?
6 tonnes à peu près. Il y a d'abord évidemment toutes les questions de survie et de camping. Ça, c'est une chose importante. Et en plus, il y a le matériel scientifique qui est lourd aussi et pesant. Enfin, lourd et important comme encombrement.
On a l'impression d'un gigantesque caravansérail publicitaire.
Mais oui, parce qu'il faut s'adresser aux différentes industries pour qu'elles donnent. C'est pas le CNRS ou un organisme officiel qui peut financer cela pour l'instant pour l'Indonésie.
Ah bon, on a l'impression que même un camion de 5 millions, ça tombe tout rôti comme ça.
Oui, oui, il suffit de demander, finalement.
C'est facile, hein ?
Relativement.
Et vous avez demandé le camion pendant combien de temps ?
Pendant deux ans.
On a attendu bien 2 ans, ouais.
Oui.
Vous êtes satisfait des performances techniques ? C'est un tout-terrain ?
C'est un tout-terrain, 4 roues motrices avec des multiplications, et je pense que le camion passera mieux que la voiture.
Vous avez tous des situations dans le domaine scientifique, et vous partez pendant des mois. Ça doit tout de même poser des problèmes matériels.
Ah, les problèmes financiers, c'est les problèmes cruciaux. Parce que si on n'a pas d'aide financière, si on n'a pas le matériel qu'il faut, eh bien on ne fait rien. Et pour des missions comme celles qu'on prépare pour l'Indonésie, il faut tout de même des millions. Enfin, je parle en ancien franc, ça coûte très très cher. Et pour avoir ces sommes, il n'y a qu'une solution, c'est demander l'aide à des organismes officiels et à des industriels. Et notre technique est fort simple, elle consiste à contacter plusieurs milliers d'industriels, à faire ça au grand nombre, et à attendre les réponses. Je vous donne un exemple peut-être un peu bizarre, mais c'est une chose tout à fait vraie et à laquelle il faut penser. Vous avez par exemple besoin de nourriture, toujours fort utile. Eh bien, si vous écrivez à 100... industriels qui font des produits alimentaires, vous aurez à peu près 30 réponses positives. Et avec 30 réponses positives, c'est-à-dire 30 personnes qui vous enverront de la nourriture. Et avec ces 30 réponses positives, vous pouvez vivre pendant 3 mois à 3. Alors si vous voulez vivre 6 mois, vous écrivez à 200 maisons, si vous voulez vivre, et ainsi de suite. Voilà le système. Et alors pour le reste, pour ce qui est du gros matériel, camions et autres, ça c'est très très délicat, il faut beaucoup de contacts, il faut avoir... des gens influents, il faut bien le dire, par-ci, par-là, pour pouvoir s'en sortir. Il y a même une société minière qui nous aide maintenant, une grande société minière française, qui nous aide pour notre mission en Indonésie.
Est-ce que l'Indonésie, c'est une initiative qui vous est propre, ou est-ce que c'est une demande d'un gouvernement ?
Non, au départ, c'est une initiative qui nous est propre, et ensuite, on s'est arrangé pour que ce devienne une initiative de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement indonésien, qui nous a demandé officiellement. Mais par la suite, au départ, l'idée venait de nous, puisque c'est tout de même l'Indonésie, c'est tout de même la terre où il y a le plus de volcans à travers le monde. Il y en a 153 à peu près en activité.
On va maintenant, avec vous, s'autoriser à arpenter quelques volcans. Et d'ailleurs, Maurice Kraft était absolument convaincu de la nécessité de laisser les gens s'approcher des volcans pour les observer, les connaître. C'est une position qui est un petit peu étonnante, alors qu'on apprenait à l'école, il n'y a encore pas si longtemps, qu'un volcan, avant tout, c'est quelque chose de dangereux.
Mais oui, mais vous savez, ce sont des idées préconçues. Il est sûr qu'un volcan, vous n'allez pas assister à une éruption volcanique sur le piton de la Fournaise, à Hawaï ou un peu n'importe où, vous n'allez pas assister, comme vous n'avez pas le même état d'esprit que pour grimper au sommet de l'Arc de Triomphe à Paris. Il y a des risques à aller sur un volcan, c'est sûr. Mais dans la presse, on ne parle du volcanisme qu'à partir du moment où il y a des morts. Mais le problème, c'est que les morts dues au volcanisme, statistiquement, sur une centaine d'années, c'est moins de 100 000 personnes. Sur une centaine d'années, statistiquement. Oui. Ça ne veut pas dire que tous les 100 ans, il y a moins 100 000 personnes qui disparaissent à cause d'une éruption volcanique. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y en a moins de temps en temps, il y en a plus quand il y a des gros conflits d'éruption volcanique. Mais les accidents de voiture, chaque année sur la planète Terre, c'est plus de 700 000 personnes qui disparaissent. Les volcans ont une très mauvaise presse parce que ce sont des phénomènes géologiques qui dépassent l'entendement humain, mais il faut bien se dire que le volcanisme en Indonésie permet les cendres qui retombent des éruptions volcaniques en Indonésie, c'est-à-dire en milieu tropical ou subtropical, permettent de faire 3 récoltes de riz par an au lieu d'une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les volcans facilitent la vie de centaines de millions de personnes sur la planète Terre.
Ça sert la volcanologie?
On dit toujours les volcans, c'est destructeur, ça tue des milliers de gens, c'est très dangereux. Il n'y a pas que cet aspect-là, les volcans sont fort utiles, et beaucoup plus utiles qu'ils ne sont nuisibles. Un exemple, dans le Massif central, autour de la chaîne des Puits, dans la plaine de l'Allemagne, ça pousse très bien. Ça pousse très bien pourquoi? Parce que dans le sol, il y a des poussières volcaniques qui sont très fertiles, qui sont très bonnes, c'est-à-dire il y a du fer, il y a de la potasse, etc., permettent aux plantes de très bien pousser. Donc déjà, pour l'agriculture, c'est intéressant. Il n'y a pas que cela, il y a aussi l'énergie géothermique, qui consiste à utiliser l'énergie des volcans pour faire de l'électricité. Et tout de même, dans le nord de l'Italie, à Lardirello, on utilise la vapeur volcanique pour faire de l'électricité. Ça en fait 3 milliards de kilowattheures, c'est-à-dire toute l'électricité pour les chemins de fer de l'Italie centrale. Et ça coûte 5 fois moins cher que l'énergie d'un barrage.
Et nous, justement, on va en Indonésie pour la géothermie, c'est-à-dire d'étudier les zones thermales qui pourront ensuite être exploitées par les Indonésiens pour faire de l'électricité. Et c'est ça notre premier but dans notre voyage en Indonésie, notre mission.
Vous avez fait cette expérience, vous, du volcanisme, et vous écrivez dans votre livre « Plus qu'une découverte, ce fut une révélation ». Les volcans ont vraiment changé votre vie?
Oui, tout à fait. Alors, je peux vous parler, si vous voulez, de ma première
volontiers
volcanique. C'était incroyable. Donc, j'avais été comme Katia, j'avais découvert le Vésuve, j'avais vu un grand trou béant qui ne fumait même pas, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Puis j'étais allé sur l'Etna, et à cette époque, sur l'Etna, il était en éruption. Et donc, il y avait des coulées, une ou deux coulées, qui s'épanchaient, c'est merveilleux, vous avez le contact, vous avez la chaleur, enfin c'est merveilleux. Et puis vous aviez la construction du cratère nord-est, sur les flancs des cratères sommitaux de l'Etna. On pouvait pratiquement le voir se construire, tellement il y avait de matériaux qui élaboraient le cône volcanique. Il faisait déjà une centaine de mètres de hauteur. Il avait 30 ou 40 éruptions qui projetaient plusieurs tonnes de matériaux, des blocs, des bombes, des scories, des cendres, qui retombaient et qui formaient le cône dans un bruit de locomotive qui s'emballe. Donc c'est déjà un environnement, assez incroyable. C'était la fin de la journée, j'avais passé toute la journée à côté des coulées de lave, à regarder la construction du cône nord-est, donc il pouvait difficilement s'en approcher, et je m'étais assis en contrebas des cratères sommitaux pour me reposer. C'était la fin de la journée, le soleil se couchait, devant moi il y avait une mer de nuages qui se trouvait 800 mètres en contrebas, et ce qui était très joli aussi, c'est-à-dire qu'il y avait l'ombre de l'Etna en forme de triangle qui courait sur la mer de nuages, puisque le soleil était en train de baisser, on voyait courir l'eau, c'était merveilleux. Et j'étais en train de me reposer, fatigué par une journée de soleil, d'irruption, de chaleur et tout, et je m'étais assis. Et puis, en m'asseyant, d'un seul coup, je vois des gaz devant moi, légèrement bleutis. Je me dis, tiens, ils n'étaient pas là il y a quelques instants. Et puis, d'un seul coup, il y a l'odeur doucereuse des gaz qui m'arrive, une odeur pas très très agréable. Et puis, d'un seul coup, je me dis, j'ai des troubles de la vision, je crois voir le sol sur lequel je suis, qui bouge, qui ondule. Et je me dis, je suis fatigué, il faut que j'aille manger. Puis d'un seul coup, à 4 ou 5 mètres devant moi, de là où sortaient les gaz, j'aperçois des gouttes de lave qui sortent de la terre. Il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. C'est pas comme dans les films de Disney, il n'y a pas de grandes fissures qui s'ouvrent et de la lave qui sort. Là, c'est simplement des gouttes qui percolent et qui sautent. C'est très sautillant. Et je regarde ça, je me dis, mais je suis en train d'assister à quoi? Et puis, d'un seul coup, de lave deviennent petits jets qui jaillissent, qui sautillent. Et puis, d'un seul coup, les jets arrivent à une hauteur de 80 cm, 1 mètre, sur une fissure qui fait environ 4 à 5 mètres de long. Donc, je commence à me reculer en me disant, Dédé, il faut que tu fasses attention. Et puis, d'un seul coup, il y a un basculement, tout change. Et d'un seul coup, la terre dégurgite une espèce de langue de lave qui donne naissance à une coulée de lave. Imaginez, vous êtes là sur un sol qui bouge, alors que vous n'avez pas l'habitude que le sol bouge, c'est la chose la plus stable qui existe. Vous avez des gaz qui vous collent à la peau, et ça c'est incroyable. Vous avez l'odeur, et ce qui est particulier, c'est que tous ces moments qui ont duré quelques dizaines de secondes, ça s'est passé dans un silence absolu, dans la sérénité. Il y avait à ce moment-là le soleil qui se couchait, les étoiles qui arrivaient dans le ciel, et d'un seul coup, si vous voulez, j'ai eu comme une révélation où je faisais partie en même temps de ce paysage, de cette petite éruption qui était en train de se produire, et que j'avais parfaitement conscience que je faisais partie de l'univers. L'air était en moi, c'est-à-dire une sorte d'expérience d'unité, une compréhension, non pas par l'intellect, mais par le hara, comme disent les Japonais, c'est-à-dire par le ventre, c'est-à-dire une compréhension primordiale. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de travailler dans le domaine du volcanisme.
Dans votre livre, vous avez choisi d'évoquer plusieurs éruptions, plusieurs volcans. Vous n'étiez pas vous-même toujours présent. Comment est-ce que vous avez recueilli le matériel nécessaire pour nous plonger de façon si détaillée dans ces aventures scientifiques absolument extraordinaires?
J'ai fait ça de façon bénévole et je n'ai jamais touché aucun subside ni aucun argent de Maurice et Katia. C'est-à-dire que Maurice, il me disait, il y a une éruption, est-ce que tu peux venir? Des fois, il me payait un billet d'avion, mais c'est tout. Donc, voilà, je suis parti avec Maurice en Antarctique, en Afrique de l'Est pendant 5 mois, au Kenya, en Tanzanie, en Éthiopie, au Zaïre. Je suis parti au Chili, je suis parti à Hawaï, je suis parti sur Piton de la Fournaise. J'ai vécu pas mal d'éruptions avec eux, mais pas suffisamment comme je l'aurais souhaité. Et donc, le matériel, eh bien, quand Maurice et Katia rentraient, ils m'appelaient tout de suite, alors que je n'avais pas été sur l'éruption, et Maurice me montrait toutes les images qu'il tournait sur sa table de montage. Et il me faisait les commentaires et il me demandait mon avis. Je voyais très souvent Maurice et Katia, j'étais pas simplement leur assistant, mais j'étais un ami, j'étais un confident des bons et des mauvais moments. Voilà, et on était vraiment excessivement proches en amitié. Et à leur disparition, si vous voulez, durant leur vivant, eh bien, je collectais déjà tous les revues, les articles de presse qui pouvaient paraître sur eux, tout ce qui concernait le volcanisme. Le volcanisme, j'amassais des documents. Disparition en juin 1991, j'ai collecté tous les documents, toutes les informations que je pouvais. J'ai, on va dire, une somme de documentation incroyable. Où j'ai pu dresser tout le parcours de vie de Maurice et Katia depuis leur naissance jusqu'à leur disparition avec tous les volcans sur lesquels ils avaient été, ce qu'ils avaient fait, recueilli des témoignages. J'ai fait aussi des interviews de personnes qui les avaient rencontrés. Donc j'ai énormément travaillé dans l'histoire de réaliser un jour un livre, ce que j'ai fait, et de réaliser aussi des expositions. J'ai fait des expositions pour le 20e anniversaire de la disparition de Maurice et Katia à Vulcania, en Auvergne. Là, je vais probablement faire des expositions, un livre aussi pour la cité du volcan au Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. Donc, ce que je souhaite, c'est pérenniser la mémoire de Maurice et Katia, parce que tout simplement, je pense que ce peut être des bons exemples pour les jeunes d'aujourd'hui à qui on présente une planète en difficulté, à tout ce qu'on présente, c'est du chômage, c'est une difficulté de vie pour les jeunes d'aujourd'hui, et leur dire, regardez ce qu'ont fait Maurice et Katia, leur vie a été difficile, mais comment dire, ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient, et ils ont vécu des vies merveilleuses à vivre leur passion. Et si Maurice et Katia peuvent servir d'exemple d'aujourd'hui à vivre leur passion sans écouter personne et foncer dans leur domaine d'intérêt, ça serait merveilleux.
Force de voir beaucoup d'éruptions, à être dans des situations un peu impressionnantes, on a toujours envie d'avoir plus et surtout d'aller plus près pour mieux pouvoir observer. Parce que comme on observe surtout par l'image, bon, vous avez des téléobjectifs, mais c'est pas ça. Donc il faut s'approcher le plus près possible.
Alors, parlons peut-être un peu maintenant du style Kraft. Maurice et Katia avaient des rôles bien définis quand ils partaient. Comment se passaient leurs expéditions et quel était leur fonctionnement lorsqu'ils étaient en mission?
Alors, il y avait deux types de missions. Il y avait les premières missions au début de leur carrière, où ils partaient en Afrique, où ils partaient en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et ils allaient découvrir le volcanisme dans sa globalité, dans ses différentes parties du monde. Donc ça, c'était des missions très spécifiques, où ils abordaient tout le domaine du volcanisme. Il n'y avait pas forcément d'activité, mais ils abordaient vraiment le volcanisme ancien ou le volcanisme plus ou moins récent. Et il y avait un deuxième type de mission, c'est-à-dire qu'ils avaient un réseau mondial de scientifiques qui les contactaient dès qu'il y avait une possibilité d'éruption ou dès que l'éruption se déclenchait. Et à partir de ce moment-là, il fallait prendre la décision difficile de dire on y va, on n'y va pas. Ça veut dire que pendant le temps du voyage, l'éruption peut s'arrêter. On ne peut pas savoir si l'éruption elle va durer, elle démarre à un temps X, si elle va durer 2 heures, 3 jours, 15 jours ou 6 mois. Donc c'est toujours un risque de prendre, de savoir de partir sur une éruption. Donc il y avait deux styles de mission. Sur les éruptions volcaniques, alors Katia, comme je vous l'ai dit, elle s'occupait des photos. Elle avait un œil photographique. Quand on regarde une photo de Katia, eh bien, on voit véritablement qu'il y a un œil, il y a un regard porté sur le volcanisme. Et Maurice s'occupait des films.
Alors justement, Maurice Kraft a filmé des heures et des heures les volcans, leur colère. Il a offert au monde ces images spectaculaires. Katia, c'est aussi énormément de photographies. Pourquoi ce besoin de documenter? C'est vraiment pour rendre compte, pour témoigner? La transmission, elle était vraiment au cœur de la démarche des Kraft?
Oui, la transmission était indispensable, tout simplement pour une bonne raison. Maurice et Katia, pour eux, le volcanisme, c'était la vie, c'était la beauté, c'était le plus beau spectacle qu'on puisse voir dans une vie. Et puis, il est arrivé un événement. En novembre 85, il y a eu une grosse éruption en Colombie, le volcan Nevado del Ruiz, qui d'un seul coup, malgré que, il y a eu des scientifiques qui ont dit qu'il faut évacuer la zone, le gouvernement n'a pas évacué la zone, et il y a eu des coulées de boue qui sont arrivées sur la ville d'Armero et qui ont fait 22 000 morts. Maurice était en conférence, il ne pouvait pas se déplacer, c'est Katia qui a été sur le terrain. Et là, d'un seul coup, le plus beau des spectacles qu'on puisse voir dans une vie se transforme en le pire des cauchemars. Tout simplement parce que vous vous retrouvez face à la mort, vous pouvez face à 22 000 morts. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai des écrits de Katia qui dit qu'elle se retrouve, elle marche sur qui mettent debout. Elle est obligée de mettre des tôles pour pouvoir marcher sur la boue. Elle avance et d'un seul coup, il y a des corps. Ça sent la mort et c'est terrible pour elle. Et c'est terrible pour moi et c'est Katia parce que d'un seul coup, les volcans, dans l'esprit du public, c'est la mort. Alors c'est tout le contraire qu'ils veulent faire passer. Et donc, ils se disent, mais pourquoi les autorités n'ont pas écouté les scientifiques? Et ils ont décidé de mettre des images sur des mots. Vous parlez aux autorités et vous leur dites, voilà, ils veulent avoir une coulée pyroclastique, ils veulent avoir des lards, ils veulent avoir des coulées de boue. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas la dimension que ça a. Ils ne savent pas les conséquences que ça engendre. Et ils ont décidé d'aller filmer les phénomènes les plus dangereux que génère le volcanisme. Et donc, ils ont mis, avec l'aide de l'UNESCO, ils ont fait une cassette sur les risques volcaniques qui présentait les 7 risques volcaniques majeurs, qui a été distribuée au gouvernement et aux autorités dans plusieurs langues et qui permettait, en cas d'éruption volcanique, de montrer des images plus que des mots et qui montrait l'étendue, l'envergure, les dimensions du volcanisme. On n'a absolument pas idée de la dimension des phénomènes que génère le volcanisme.
Et d'ailleurs, ces images, les images de Katia sur le Nevado del Ruiz en Colombie, elles ont été utilisées en Philippines pour évacuer, convaincre les autorités d'évacuer les populations autour du Pinatubo.
Ce qui était terrible, c'est que pendant que Maurice et Katia disparaissaient dans une nuée ardente sur les pentes du Mont Zen au Japon, le 3 juin 1991, leur cassette sur les risques volcaniques était présentée aux autorités philippines. Pinatubo menaçait de rentrer en éruption. Or, le Pinatubo est un volcan gris, c'était un volcan qui fait des nuées ardentes, des coulées pyroclastiques, c'est un volcan excessivement dangereux pour les populations qui vivent au pied des volcans, et cette cassette a été présentée aux autorités. Les autorités, il y avait aussi une grande base américaine militaire qui était au pied du volcan Pinatubo, et il a été décidé d'évacuer 10 000 personnes. L'évacuation de ces 10 000 personnes, juste après, il y a eu une des plus grandes éruptions du siècle dernier, qui est l'éruption du volcan Pinatubo, et comme les populations avaient été évacuées, ça a permis de sauver des centaines et des centaines de personnes, alors que Maurice, par leur travail, périssait dans l'éruption du Mont Zen.
Vous entendre comme ça, on a l'impression que c'est relativement facile. On écrit à des industriels, on se fait offrir ou prêter un véhicule et puis on va se promener sur des volcans. Il n'y a tout de même pas mieux que ce n'est pas sans danger.
D'aller sur un volcan, on croit toujours que c'est vraiment dangereux. Ça peut l'être si on est imprudent. Mais autrement, c'est pas plus dangereux que de se promener sur une route française un week-end. Sérieusement.
Mais pendant les éruptions, il y a tout de même des choses qui s'envolent en l'air et puis qui redégringolent.
Oui, alors là, il y a une technique, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, la technique consiste à éviter les blocs les plus gros. Puisque les blocs vont d'abord très haut, et on les voit venir vers soi, et on regarde en l'air, on dit, tiens, celui-là est pour moi, et puis alors on l'évite. Et on prend que les petits sur le casque. C'est vrai, c'est comme ça que l'on fait.
Vous avez déjà eu des ennuis, cependant?
Oui, enfin, personnellement, j'ai eu ma jambe droite brûlée dans un bout chaude, pas du tout dans de la lave, parce que si on met son pied dans la lave, eh bien, il n'en reste rien du tout. Mais la boue chaude, c'est déjà pas mal. Ça fait 140 degrés, ça m'a suffi. C'est un baptême de volcanologue.
Si je vous demandais jusqu'à quand vous avez l'intention de faire ce genre de métier, qu'est-ce que vous répondriez?
C'est la question à pas poser. Parce que finalement, on nous pose souvent la question, on nous dit, mais vous allez faire ça longtemps? Eh bien, ben oui, on va faire ça longtemps, on va faire ça toute notre vie, parce que c'est intéressant, c'est passionnant. C'est un métier comme un autre.
Alors, ce qui est frappant dans les images tournées par Maurice et dans les photos de Katia, et j'invite vraiment les auditeurs à rechercher ces films, ces photographies, c'est qu'ils s'approchaient très très près des coulées de lave. Ils avaient appris à éviter les bombes volcaniques. En tout cas, ils n'hésitaient pas à prendre des risques pour être au plus près de ces phénomènes. Ils avaient conscience de ces risques.
Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il y a un texte qui est merveilleux de Maurice qu'il a écrit dans un livre qui s'appelle « Question à un volcanologue » et qui est un texte prémonitoire.
Il y a 12 ans de carrière, nous sommes déjà centenaires, tant sont nombreuses les belles et fabuleuses éruptions volcaniques qui se bousculent dans nos mémoires de volcanologues. Katia, moi et les volcans, c'est une histoire d'amour. Notre passion est exclusive, dévorante, loin des hommes. J'aime les volcans parce qu'ils nous dépassent, qu'ils sont indifférents à la vanité des choses humaines. Si nous avons encore le courage de vivre dans notre société moderne, c'est grâce aux volcans, aux joies qu'ils nous apportent par leur beauté, leur sérénité, leurs embrasements, leur violence qui, peut-être un jour, aura raison de notre témérité.
Oui.
Maurice résumait ainsi, si vous voulez, toute leur philosophie de vie par rapport au volcanisme.
Il y a des moments incroyables dans votre ouvrage, il y en a vraiment énormément, comme la fois où Maurice décide de naviguer sur le lac d'acide d'un volcan indonésien, ou celui où Katia et lui sont seuls au monde dans un hôtel islandais qui est peu à peu avalé par les retombées du volcan Eldfell. Est-ce qu'une mission les avait marqués en particulier? Et puis, à vous, est-ce qu'il y a un moment qui a été plus marquant pour vous? J'imagine que vous vous souviendrez longtemps, par exemple, de votre séjour à Hawaï en 1987.
Oui, alors, Maurice disait tout le temps, la science c'est bien, à condition que ça soit pas chiant. Donc, il avait décidé en 1971, sur le lac d'acide du Kawaijen, à l'intérieur d'un cratère du Kawaijen en Indonésie, sur l'île de Java, il avait décidé de naviguer sur un lac d'acide. Vous imaginez, voilà. Donc il avait acheté, Maurice et Katia avaient acheté un petit dinghy au plus de Saint-Ouen, et puis il s'était baladé sur le lac d'acide. Alors, tout le monde lui disait, mais ça sert à rien. Bien sûr, ça ne sert à rien. Mais il dit, moi, ça me fait plaisir. Et il faut que je prenne du plaisir. Donc c'était important d'avoir du plaisir et de montrer que les scientifiques, c'était pas simplement des gens qui sont un peu rébarbatif dans leur langage. Il fallait vivre les volcans, il n'y avait pas qu'un seul moyen de l'étudier scientifiquement. Il fallait vivre sa passion autrement. Et en Islande, en 1973, lors de l'éruption de l'Eldfell, ils sont avertis par téléphone qu'il y a une éruption sur l'île des Mahé, dans le sud de l'Islande. Ils s'y précipitent, ils arrivent, ils ont l'accord des autorités pour rester sur l'île, alors que toute l'île est évacuée de ses 4000 personnes. Et puis ils sont dans, il faut imaginer que c'est une fissure qui s'ouvre sur 4 km, et que des fontaines de lave jaillissent sur ces 4 km, et certaines vont jusqu'à 250 mètres de hauteur. Et ces fontaines de lave vont générer des scories qui s'épanchent sur la ville qui est désertée. Et donc, ils sont dans la ville, ils sont dans une ville morte, la ville a été évacuée, et les scories qui tombent en permanence, c'est-à-dire qu'on ne voit pratiquement plus, en plein jour, on ne voit pratiquement plus rien tellement ils tombent de scories. Et ils trouvent une des personnes qui n'a pas encore été évacuée, et là, c'est le propriétaire d'un hôtel. Et il arrive une discussion un peu surréaliste, il se présente au responsable de l'hôtel, vous auriez une chambre de libre, oui, toutes les chambres sont libres, vous prenez ce que vous voulez, moi je m'en vais. Et ils vont se coucher au premier étage en ayant une fenêtre qui donne sur les fontaines de lave qui se trouvent à moins d'un kilomètre de là. Ils se couchent, ils essayent de dormir, mais le bruit est infernal, les vitres de l'hôtel se brisent. Et le lendemain matin, ils s'aperçoivent que les scories ont monté de 3 mètres. C'est-à-dire qu'il était tombé 3 mètres de scories sur la ville en l'espace d'une nuit. Donc ils ne peuvent plus ressortir par l'entrée de l'hôtel, normal. Ils peuvent ressortir par la fenêtre du premier étage. C'est quand même
incroyable.
Une expérience assez incroyable.
Le
dire, la plus folle de mon existence, je l'ai vécue ici, au Kavaijen. C'est un lieu absolument fabuleux, entouré de soufre, des montagnes de soufre. Et là, juste devant nous, il y a le Kavaijen lui-même, ça veut dire cratère vert en indonésien, parce qu'il a un espèce de vert émeraude. Et c'est la plus grosse réserve d'acide sulfurique du monde. Elle est naturelle. Et quand, par exemple, on prend un calcaire, un bloc de calcaire, et qu'on le met dans le lac, eh bien, ça fait des bulles de partout, ça fait effervescence. C'est de l'acide sulfurique concentré. Les montagnes de soufre qui se trouvent autour du Kavaijen sont exploitées. En fait, il se dépose environ 5 tonnes de soufre par jour. Ce soufre, il coule, il est tout rouge au départ, lorsqu'il est en fusion. On a l'impression que c'est le sang de la terre. Et il coule, et ensuite il cristallise. Et ça fait ces dépôts fantastiques, tout jaunes, de vraies montagnes avec des stalactites, des stalagmites de soufre. Et une quarantaine d'hommes exploitent ce soufre. Ils en extraient environ 4 tonnes par jour. Ils le transportent en picoule, je veux dire, sur des balanciers, sur des charges à balancier. Et souvent, ce sont des gamins qui ont 12, 13 ans, qui transportent plus que leur poids, je sais pas, 30, 40, 50 kilos. Ils vont le transporter sur 50, 60 kilomètres. Et ils sont payés pour la journée, juste pour un voyage, 5 ou 6 francs. C'est un travail absolument épouvantable. Et ces pauvres porteurs de soufre, qui ont pourtant plein d'humour, qui sont d'une gentillesse extrême, eh bien, ils sont condamnés. Parce que ils absorbent tellement de gaz sulfureux que leurs poumons sont attaqués et ils meurent très très jeunes. On a eu l'idée de naviguer sur le lac d'acide. Moi, ça me paraissait drôle. Comme ça n'avait jamais été fait. Les chimistes n'étaient pas d'accord du tout. Katia était absolument contre, elle est géochimiste. Et finalement, ce sont les géologues, donc les inconscients, qui sont allés sur le lac d'acide. Et on avait acheté en fait ce bateau, on avait pris un bateau pneumatique qu'on avait acheté 100 francs au marché aux puces à Saint-Ouen, tout à fait classique. C'était un bateau d'occasion, on n'avait pas prendre un bateau neuf. C'était un bateau qui était synthétique, qui n'était pas en vrai caoutchouc, qui était en espèce de plastique synthétique. Et ce plastique, on ne le trouvait pas complètement idiot, on a laissé ce canot pendant quelques heures sur le lac sans personne à bord pour voir comment réagissait. Et il ne semblait pas avoir de fuite. Il semblait rester intact. On s'est dit, on doit pouvoir utiliser ce canot pour aller dessus. Et on y est donc allé. Et on n'avait pas spécialement d'appréhension. Au départ, oui, mais ensuite, c'était tellement excitant. On s'est mis à ramer sur ce lac d'acide. Et là où il y a eu une petite hésitation, où on s'est posé des questions, il y a eu deux moments. Quand on a descendu le filin en acier, au bout duquel il y avait une bouteille qui était ouverte au debout et qui permettait de récupérer les échantillons d'acide à différents niveaux de profondeur, eh bien, le câble en acier a été mangé en moins de 5 minutes. Le deuxième problème, c'est qu'il y a eu un vent contraire ensuite qui ne nous permettait plus d'accoster à l'endroit où nous avions embarqué. Et tout autour, il n'y avait que des falaises à pic. Donc on a vraiment lutté pendant 2 ou 3 heures pour regagner la berge. Enfin, ça a été un grand moment également dans ma carrière de volcanologue, parce que d'aller sur un milieu corrosif comme cela, surtout qu'on m'avait dit de surtout pas y aller, ça a été une espèce de challenge pour moi. J'aime toujours faire ce que les gens m'interdisent de faire.
Et on en avait discuté avec Maurice, et on souhaitait naviguer sur une coulée de lave dans un canot. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça sert pour le fun, ça sert pour avoir ce contact avec le volcan. Mais nous n'étions pas ce projet, ce n'étaient pas les premières personnes à l'avoir fait. En Union soviétique, au temps de l'Union soviétique, la péninsule du Kamtchatka, il y a eu deux volcanologues, Ivanov et Povstov, qui avaient navigué sur une coulée de lave en jetant des plaques d'amiante sur une coulée de lave dans une éruption au début du siècle. Et ils avaient parcouru 1 kilomètre sur cette coulée de lave, sur ce volcan. Et pour Maurice, quand il voyait ça, il disait « Oh là, ça va être une expérience formidable ». Et on avait décidé d'avoir un projet avec Maurice pour créer un canot pour naviguer sur les coulées de lave. Là, on aurait pu faire des prélèvements de gaz en direct, on aurait pu faire des relevés de température en direct, enfin plein de choses, voilà. Et puis, il avait eu comme sponsor l'aérospatiale, qui lui avait dit, ben voilà, on va essayer, il y a des briques réfractaires qui couvrent tout l'avant de la navette spatiale quand elle revient dans l'atmosphère, et il lui avait confié une brique réfractaire. Et Maurice m'avait dit, ben voilà, cette brique réfractaire, dès qu'on est sur une éruption, on va la voir comment elle se comporte en le posant sur une coulée de lave. Et nous étions à la Réunion, et à chaque fois que Maurice arrivait, une éruption arrivait à la Réunion aussi, c'était incroyable, si vous voulez, le rapport que Maurice avait, c'est-à-dire qu'il arrivait quelque part, il y avait une éruption. Et donc on se rend sur l'éruption du piton de la Fournaise, des belles fissures qui s'ouvrent, des fontaines de lave qui sortent pendant quelques heures, puis des cônes volcaniques qui se construisent et des coulées de lave qui sortent des cônes volcaniques. Et Maurice avait sa brique réfractaire. Il la sort de son sac à dos et il la met dans la coulée de lave. Et il me dit, tu vois, heureusement qu'il y a quelqu'un qui travaille sur ce projet, en me montrant la brique réfractaire, tu vois, là, moi, je bosse. Et puis, il pose la brique réfractaire sur la coulée. Et puis, rien ne se passe pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, on voit la brique réfractaire se rétracter comme une vieille semelle de chaussures et disparaître en fumée. Et là, Maurice me dit, ça, j'y avais pas pensé, parce que là, il y avait l'influence des gaz. Quand on rentre dans l'atmosphère, il y a la chaleur, mais il n'y a pas les gaz. Tandis que là, il y avait les gaz, la chimie des gaz, qui faisait que ça a détruit totalement la brique réfractaire. Donc l'idée d'avoir un canot en brique réfractaire n'était plus possible, il fallait trouver autre chose. Et c'était un projet qu'on avait avec Maurice de faire ça, qui malheureusement a dû s'arrêter du fait de la disparition de Maurice et de Katia.
Vous avez évoqué là le piton de la Fournaise et la Réunion. Maurice Kraft s'est beaucoup engagé à la Réunion pour notamment créer un observatoire.
Au début, quand il a découvert la Réunion, je crois que c'était au début des années 70, quand il donnait des interviews, il disait il y a deux choses qui sont importantes. Il faut absolument qu'il y ait un observatoire à l'île de la Réunion pour essayer de prévenir les éruptions volcaniques. Voilà. D'étudier les éruptions du piton de la Fournaise. Puis il y a une deuxième chose, ce serait bien qu'au moins dans un pays, il y ait un musée consacré au volcanisme, entièrement consacré au volcanisme, pas un musée qui présente le volcanisme entre les cristaux géants de minéralogie et les dinosaures, mais qui est un musée entièrement consacré au volcanisme. Et donc, il a participé à cette motivation des autorités de créer... un observatoire volcanologique à l'île de la Réunion.
Nous ne pouvions pas quitter la Réunion sans croiser immanquablement sur notre route deux Alsaciens que les Réunionnais connaissent bien, car ils viennent régulièrement ausculter les flancs du piton de la Fournaise, le volcan actif de la Réunion. Il s'agit bien sûr, vous les avez reconnus, de Katia et de Maurice Kraft, les deux volcanologues alsaciens qui exercent leur talent dans le monde entier. Mais c'est à la Réunion qu'il va se concrétiser sous la forme d'un passionnant projet conçu par le Conseil régional de la Réunion, une maison du volcan dont Maurice Kraft sera le conseiller scientifique et Katia Conrad est aujourd'hui avec nous pour nous en parler.
L'île de la Réunion, elle a donc deux volcans, le Piton des Neiges, le Piton de la Fournaise, et c'est un des volcans les plus actifs de la planète, ce qui explique qu'on vient très souvent sur notre île et que Maurice a pensé que ce serait vraiment très utile pour tout le monde, pour les visiteurs ou les gens du pays, de mieux comprendre ce volcan et donc de faire la maison du volcan qui est un musée du volcan. Et il y aura beaucoup d'audiovisuels, de diapositives qui vont montrer la vie du volcan du Piton de la Fournaise, mais aussi des volcans des autres volcans du monde.
Alors Maurice Kraft sera le conseiller scientifique de la maison du volcan, c'est-à-dire ça consiste en quoi très exactement?
Il est le concepteur puisque le musée est en train d'être construit. Il est déjà en train d'être construit, dans un an et demi, il est terminé. C'est-à-dire le concepteur scientifique, ça veut dire la personne qui chapeaute tout le travail de mise en forme des différents panneaux, des films qui vont présenter la volcanologie.
Donc si je comprends bien, la maison du volcan verra le jour, grâce au Conseil régional de la Réunion, avant le projet auvergnat.
Ah oui, l'Auvergne c'est encore un projet, ça c'est décidé, c'est en train d'être conçu.
Inauguration pour quand?
Un an et demi.
Dans un an et demi, nous reviendrons avec Maurice cette fois-ci, parce que là, je crois qu'il n'est pas à La Réunion en ce moment.
Eh non.
Il est sur les pentes d'un autre volcan, non?
Non, 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 il fait une tournée de conférence qui était prévue il y a 2 ans, donc maintenant il n'a pas pu venir à ce colloque.
Donc rendez-vous à La Réunion pour l'inauguration du musée de la Maison du Volcan avec Maurice et Katia Kraft.
L'héritage des Kraft, il est encore présent dans la communauté scientifique aujourd'hui. Dans son magnifique documentaire « Au fin fond de la fournaise », le réalisateur Werner Herzog, qui est lui aussi passionné par les volcans, explique qu'il a souvent parlé avec son ami le volcanologue britannique Clive Oppenheimer du travail de Maurice et Katia, et il inclut même dans son documentaire des images d'une grande puissance visuelle tournées par Maurice. Maurice et Katia restent des géants de cette discipline.
Alors, je veux dire, j'avoue mon inculture, je ne connais pas ce documentaire, je vais me précipiter pour connaître ce documentaire. Oui, Maurice et Katia, leurs 25 ans de carrière, ça a été des ovnis dans le monde de la volcanologie. Imaginez voir 175 éruptions volcaniques dans une vie comme la de Katia, mais il y a peu d'êtres humains qui ont pu assister à autant d'éruptions volcaniques. Enfin, c'est incroyable, c'est pratiquement les seules personnes au monde à avoir fait ça. C'est-à-dire avoir une telle connaissance globale du volcanisme, parce qu'ils connaissaient toutes les facettes du volcanisme. C'était véritablement des ovnis, et aujourd'hui, il y a eu des tentatives de reprendre le flambeau qu'ont laissé Maurice et Katia, mais c'est très compliqué aujourd'hui, tout simplement parce que, il faut énormément de pugnacité, il faut énormément de connaissances, et le monde d'aujourd'hui est de plus en plus difficile, car il est de plus en plus difficile de se rendre sur les volcans en activité.
Alors le documentaire d'Herzog que je vous conseille évidemment, il explore la symbolique aussi des volcans, leur portée philosophique et ce qu'ils disent de nous en tant qu'humains et aussi de notre planète, ces préoccupations, ces interrogations, Maurice et Katia les partageaient et vous aussi je crois, les volcans ils font partie de notre histoire.
Eh bien écoutez, oui bien sûr ils font partie de l'humanité si vous voulez. Au début de la formation de la Terre, la formation du système solaire, il y a de ça 4 milliards 400 millions d'années, ce sont les volcans qui ont généré les gaz pour la première atmosphère primitive. Et puis quand il y a eu l'atmosphère primitive, il y a eu les premières pluies. Et grâce à la création d'une atmosphère, il y a eu la possibilité que les premières briques du vivant puissent s'installer. Et ainsi la longue chaîne de vie qui a pu se perpétrer. Donc si on peut parler aujourd'hui du volcanisme, si on peut parler ensemble, c'est grâce au volcanisme. Mmh. Et moi, il y a une chose qui me trouble particulièrement. C'est-à-dire que quand je suis sur une éruption, quand j'entends les coups de lave qui suintent, quand j'entends le bruit des fontaines de lave qui font un bruit d'enfer, eh bien, c'est les premiers bruits qui sont arrivés sur la planète Terre. C'est-à-dire que d'un seul coup, en vivant une éruption aujourd'hui, on est en contact avec la création de la Terre, il y a de ça 4 milliards 400 millions d'années. Et ça, je dois vous dire que symboliquement, c'est assez incroyable et c'est très fort à vivre.
Le volcan du mont Hunzen continue ce soir de cracher des cendres, des gaz et des blocs de rochers, des explosions qui gênent considérablement le travail des secouristes. Selon le dernier bilan, 32 personnes sont mortes, mais beaucoup sont encore portées disparues. Parmi eux, le couple de volcanologues français, Maurice et Katia Kraft. Dominique Dumas.
Aujourd'hui encore, une deuxième explosion et de petites secousses sismiques ont entravé le travail des secouristes japonais. La nuit ardente qui a dévalé hier à 200 km à l'heure les pentes du mont Uzen dans l'île de Kyushu aurait fait, selon les derniers bilans, 32 morts. 31 personnes demeurent toujours disparues, parmi elles les vulcanologues français Katia et Maurice Kraft, qui ont pendant 25 ans voué leur vie au volcan en connaissant les risques de leur passion. Maurice Kraft lui-même le reconnaissait il y a quelques mois devant nos caméras.
J'avoue qu'il y a toutes les chances pour que je finisse déchiqueté, carbonisé, dans une nuée ardente. Donc dans quelque chose de chaud, 300-400 degrés, qui viendrait sur moi à 300 km à l'heure. Normalement, si je fais bien mon métier jusqu'au bout, ça devrait se terminer comme ça.
Le mont Usen, d'une altitude de 1400 mètres, avait il y a deux siècles causé la mort de 15 000 personnes. Le Japon surveille en permanence une vingtaine de volcans dangereux sur les 250 que compte l'archipel. Certains peuvent se réveiller même après plusieurs millénaires de sommeil. Pour l'instant, au pied du mont Usen, les secours s'organisent. 5 000 personnes ont dû être évacuées. Même si de petites éruptions avaient été constatées en février et en mai dernier, les volcans sont hélas scientifiquement imprévisibles.
Nous arrivons au terme de cet entretien. Comment ne pas évoquer la disparition prématurée de Katia et Maurice Kraft, emportée par une coulée pyroclastique du mont Usen au Japon? C'était en 1991. Pour ouvrir votre livre, vous citez Cervantes, « Ceux qui jouent avec des chats doivent s'attendre à être griffés ». Vous avez accueilli la nouvelle, bien sûr, avec effroi, beaucoup d'émotions, mais est-ce que vous avez été surpris?
Oui, j'ai été surpris. Enfin, j'ai été surpris parce que je pensais à Maurice et Katia à la Martinique et d'un seul coup, j'apprends aux actualités que un couple de volcanologues français disparaît sur les pentes du mont Usen au Japon. Donc, oui, bien sûr, j'ai été surpris. Mais comment dire, ce n'est pas surprenant pour Maurice et Katia. N'importe comment, Maurice disait tout le temps, de façon humoristique, n'importe comment, si on arrive jusqu'à l'âge de la retraite, c'est qu'on n'aura pas bien fait notre travail et que n'importe comment, ça ne sert à rien de cotiser à la sécu puisqu'on n'atteindra jamais l'âge de la retraite. Donc malheureusement, c'est toujours pénible pour moi de
faire
la distinction parce qu'il n'y a pas un moment ou une journée de ma vie depuis bientôt 30 ans où je ne pense pas à Maurice et Katia. Si vous voulez, c'est deux êtres d'exception qui ont vécu un destin formidable à vivre leur passion. Et leur passion les a consumés.
Alors justement, au début de cette interview, je le disais, vous n'avez eu de cesse de partager la vie et l'œuvre des Kraft, de poursuivre ce travail de transmission qu'ils avaient initié. J'aimerais citer votre épilogue que vous avez écrit donc en 2011. Vous dites « Après 20 ans, je continue de me sentir orphelin du grand rire de Maurice et de la présence rayonnante de Katia. Mais ce sont surtout les volcans qui ont perdu leur plus ardent prosélyte auprès des hommes. La place est toujours vacante, même si certains ont tenté de leur succéder. Je crois pouvoir dire que dans le monde de la volcanologie, ils continuent à occuper une grande place, une place à part. Leur vision était sans a priori. Ils étaient toujours prêts à défricher des chemins inexplorés. Je crois que ça résume bien les personnalités hors du commun qu'ils étaient.
Là, je ne peux pas me contredire.
André de Maison, un grand merci à vous pour cet entretien passionnant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Diables des Volcans, Maurice et Katia Kraft. C'est paru chez Glénat dans la collection Hommes et Montagnes. Est-ce que vous pourriez peut-être pour finir nous expliquer ce titre? C'était un surnom, c'est ça, qu'on donnait à Maurice et Katia?
Les Diables des Volcans, ce sont les Américains qui nous appellent les Volcano Devils, parce que ou ils appelaient aussi The Fast Moving Volcanologists. Parce que c'était les premiers arrivés sur une éruption volcanique, assez souvent bien avant les scientifiques qui s'occupaient du volcan. Donc voilà, c'était les diables des volcans.
Merci beaucoup à vous, André de Maison, merci.
Merci à vous.
Un grand merci à André Demaison pour sa disponibilité et sa gentillesse. Je vous conseille bien sûr son livre « Les Diables des Volcans » paru aux éditions Glénat en 2011. Au cours de cet entretien, je vous rappelle que vous avez pu entendre des extraits du reportage « Les Volcanologues » tiré de l'émission « Vivre en France » produite en 1971 par l'ORTF, mais aussi des extraits de Maurice Kraft sur les volcans du monde, réalisés par Denis Chégaré, Olivier Doha et Maurice Kraft pour TF1 Vidéo, produit en 1989. Enfin, des extraits du documentaire de Werner Herzog, Into the Inferno, produit en 2016 par la plateforme Netflix. Vous retrouverez plus d'informations sur la page consacrée à cette émission, à retrouver dans la rubrique Touche et Terre sur notre site internet www.radiograndciel.fr.